This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Spotzl, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 54, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je discute avec Théo Daniel. Alors vers la fin de l'épisode, nous allons évoquer assez rapidement finalement l'Atlas Mountain Race, et promis, c'est la dernière fois. En revanche, je vous invite quand même à aller lire son récit sur Spotzl. Le texte évidemment est génial et les photos totalement sublimes. Je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast. Donc Théo, c'est un tour d'Europe à vélo, un tour du monde à vélo, une transcontinentale où il termine 9e et une Atlas Mountain Race terminée à la 15e place. Pas mal, non? Donc, sans plus attendre, Théo Daniel.
Allô?
Ça va Théo?
Ouais, ça va et toi?
Eh ben, je déteste dire ça, mais ça va super bien en fait. Hop, ouais. Voilà, je finis juste de me préparer, voilà.
Merci. J'arrêtais pas de, j'étais au travail, là, genre en train de parler avec des gens au travail là.
Ah ouais.
Ah merde, c'est le truc, tu quand tu vois le message.
Bon ben ça va alors, on va pouvoir se poser un petit maintenant dans un instant. Et puis voilà, bon, comment ça va? T'as bien récupéré de l'Atlas?
Ouais, ça va, j'ai bien récupéré. Ce qui était un peu galère, c'est que le moment où j'ai retrouvé mon pic de performance, c'était la semaine où on était confinés, donc...
Ouais, bah, pareil.
Donc ça, j'étais un peu deck, quoi. J'ai fait une grosse sortie le week-end, j'ai fait « Ah si, je suis vraiment bien là. » En plus, là, en sortie d'hiver, souvent tu recommences à retrouver mais là, les perfs, mais là, c'était boosté par l'Atlas Mountain Race, comme... Ouais. Comme après une transcontinentale, après j'ai récupéré beaucoup plus vite que la transcontinentale. Je pense que c'est vraiment exponentiel. Mmh. Plus les courses sont longues, plus tu mets de temps à récupérer. Quoi.
Ah bah c'est normal. C'est normal.
Un mois la transcontinentale pour vraiment retrouver des bonnes perfs, ouais. Vraiment même au-dessus de ce que j'avais avant. Et là c'était 2 semaines quoi.
Ouais. Bon, j'ai vu quand même que tu t'arrives à, t'as réussi à rouler un petit peu quand même à un moment donné.
Ouais,
j'ai vu que t'as une côte assez importante,
ouais,
du côté de chez toi.
Ouais, j'ai une côte, en gros, c'est 1 km à 10% de moyenne, avec un passage à 22-25%, un truc comme ça. C'est un mur, même en, tu vois, je suis, là, quand je fais la 8e ou la 9e fois, à l'avant, j'ai un 36, je crois. Ouais. Et à l'arrière, ou un 34 à l'avant, je dois avoir un 30 à l'arrière ou un 28 à l'arrière. Et je peux te dire que faut pousser pour le passer.
Et est-ce que t'as pensé à te raser les pattes pour aller plus vite?
Ah non, ça, je me suis jamais rasé les jambes. Mais sinon, c'est un truc qui me fait marrer parce qu'il y a tout le monde qui se fout un peu dans les commentaires sur Internet. Là, on se fout des gens qui se rasent pas les jambes et tout ça. Et je me dis, en ultra endurance, il y en a plein qui se rasent pas. Et je pense que ça change pas grand chose. Hein.
Mais
C'est vraiment un truc qui est fait pour les professionnels qui se font masser après les courses. Et je pense qu'ils se font dégommer les jambes s'ils sont pas rasés. Mais après, chez les amateurs, c'est vraiment un effet de mode.
Alors, c'est pas un effet de mode, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Que pour les pros, ça soit très important pour le massage, c'est une évidence. Mais pour nous, c'est surtout de la coquetterie parce que c'est plus joli. Enfin, en tout cas, on pense que c'est plus joli.
Ouais,
selon nos critères, c'est plus joli. Et c'est juste que tu m'avais fait marrer sur une de tes photos où je te voyais avec le poil aux pattes et ta grosse selle en cuir à l'arrière, évidemment. Et du coup, je savais pas à quel moment j'allais me moquer de toi avec ça, mais ça y est, c'est fait, donc on peut attaquer. Théo Daniel, enchanté, moi c'est Richard Delhomme. Qui es-tu? Que fais-tu? Où habites-tu? Et quel âge as-tu?
Alors, que fais-tu? Je fais du vélo, hein. comment dit tout le monde ici, je fais, bah, du coup, je me suis mis à l'endurance, donc je suis arrivé par le vélo, j'ai un peu pratiqué tout, j'ai fait du BMX pendant plusieurs années, du VTT de descente. Après, je me suis mis à la route, en fait, j'avais l'objectif de faire le Paris-Ouest Paris. Et après ça, je suis parti faire le tour du monde pendant un an et demi. En mode assez sportif, on va dire, plus pour faire du vélo que pour visiter quoi.
Ouais.
Et parce que je suis arrivé vraiment au voyage moi par le vélo plutôt que beaucoup de gens qui arrivent au vélo par le voyage. Et après quoi, je me suis mis à faire de l'endurance, à revenir sur l'endurance avec la transcontinentale l'année dernière.
D'accord. Bon, bah voilà. T'habites à Rouen, t'as quel âge?
À Rouen, voilà, 26 ans là.
D'accord. Bon, bah voilà.
Ouais.
Bah, je vais te laisser, c'était hyper intéressant. Bonne chance pour la prochaine. Et puis, à bientôt. N'oubliez pas d'aller lire le récit de Théo sur l'AMR. Et puis voilà, la grosse bise. Bon, du coup, on va essayer de parler sérieusement. Si tu commençais par me parler de ce voyage, qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Alors déjà, c'est quoi un voyage autour du monde sportif?
C'est quoi? Alors, sportif, moi je suis parti un peu en mode... En gros, c'était après le Paris-Ouest Paris, donc j'avais quand même l'habitude de faire des grosses journées de vélo. Mmh. Du coup, c'est vrai que la plupart des gens, en général, quand ils voyagent à vélo, ils sont plus à faire 50-60 km par jour. Et en gros, moi, sur mon premier mois, je crois que j'arrive à Istanbul, j'étais en 25 jours, quelque chose comme ça, avec des journées, des fois, à 200 km. Et c'est vraiment le plus du road trip en fait de découvrir. Moi j'ai plus de plaisir à aller dans les montagnes, à monter des cols que d'aller dans des grosses villes ou d'aller visiter des temples, des trucs comme ça. Et justement je voyais un peu une interview de Sofiane là qui vient de sortir dans 200. Et je lisais un peu son récit sur comment il est arrivé à l'endurance et qu'il a commencé par le voyage à vélo. Mmh. En fait, je me suis rendu compte qu'on avait exactement le même, pratiquement le même parcours. En fait, c'est qu'on est,
exactement.
On est arrivé à l'ultra-endurance par le voyage à vélo. Bon, lui, il s'est mis un peu au voyage à vélo plus parce que par la passion du voyage, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, si c'était vraiment la passion du vélo au départ, mais et qu'en fait on était dans le même délire, c'était qu'on était là pour faire en gros ce qui nous plaisait, c'était tailler la route et voir des paysages de malades, monter des cols et voilà quoi. Mmh.
Mais il y a bon, Sofiane évidemment est arrivé de cette manière-là, mais également Zoé Choderlo. Bah, parmi ceux que j'ai interviewés, en tout cas, Zoé a le même parcours, un parcours de cyclotouriste même, on pourrait dire. Axel, qui d'autre?
Il y a un anglais aussi, un anglais, alors j'ai pas son nom, c'est JKB Bike sur Facebook.
Ouais.
Il a fait le tour du monde pendant peut-être 60 000 km, pendant 3 ans, en fait, en même période que moi. Et du coup, je le suivais, il me suivait sur les réseaux sociaux. Et on s'est un peu perdu de vue. Et en fait, je savais pas qu'il était à la transcontinentale. Il a fait la transcontinentale la même année que moi. Et en fait, je l'ai su après. Et je l'ai croisé, en fait. Vu que je l'ai jamais vu en vrai, en fait, j'ai même pas su que c'était lui. C'est après la transcontinentale, en fait, qu'il a posté un truc sur sa page Facebook. Et j'ai fait, mais c'est lui, Duke Dyke, quoi. Et du coup, on est beaucoup en fait à arriver en ultra-endurance par le voyage à vélo. C'est assez hallucinant.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, bah, c'était quand déjà? C'était il y a 2, 3, 4 ans, ce voyage?
C'était, je suis revenu il y a 2 ans et demi.
Ouais. Pourquoi tu es parti?
Pour faire du vélo. Non, parce que en gros, j'ai... mon premier grand voyage en vélo, en fait, c'était, j'ai traversé l'Europe. En fait, j'ai acheté un Peugeot à 60 €. J'ai mis deux porte-bagages et j'ai dit à mes parents, je vais aller jusqu'à Athènes. Mes parents, ils ont fait, ouais, de toute façon, il va aller jusqu'à Saumur et il va revenir. Et au final, je suis devenu aller jusqu'à Istanbul, je me suis arrêté à Athènes. Mais du coup, j'ai quand même traversé l'Europe. Mmh. Et du coup, ça m'a vraiment plu, cette sensation d'avancer, de pas trop savoir où tu vas, d'avoir un peu le stress le soir quand il commence à faire nuit, de pas savoir où tu vas dormir, de trouver un endroit pour te planquer pour dormir. Et vraiment cette liberté quoi. À la fin, quand j'arrive en Grèce, je me rappelle que je roulais carrément sans carte. Je savais qu'il fallait que je suive le bord de mer et que Athènes c'était par là-bas. Mmh. Et vraiment, c'était ça, c'était la liberté et bon, jour le jour quoi. Et en plus à cette époque-là, j'avais pas de GPS, je faisais tout, je découpais les feuilles des atlas des pays que je traversais. Du coup, j'avais un atlas de chaque pays. Je découpais au fur et à mesure je te traçais avec un stabilo et j'ai suivi mes cartes. J'ai fait toute l'Europe comme ça et j'avais pas de smartphone, pas de connexion internet. Et du coup, c'était vraiment un autre monde par rapport à aujourd'hui quoi.
Ouais, c'était il y a 2 ans et demi, donc.
C'était avant mon tour du monde. C'était en 2014, donc c'est quand même récent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, j'avais pas accès à tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui. Et même pour rien, j'ai cassé mon casque, j'ai fait souder par un garagiste et tout ça. Donc, et j'avais vraiment aucune. J'avais pas à cette époque-là toute la technologie que j'avais aujourd'hui, quoi.
Bah oui, parce que t'avais quand même que 20 ans, du coup.
Ouais, j'avais 20 ans, c'est ça.
Alors, j'en reviens à la même question. Visiblement, t'as pas envie d'y répondre. Pourquoi à 20 ans, tu t'es dit, tiens, je vais partir à Athènes ou à Istanbul?
Pour découvrir.
Tu peux inventer, hein, tu peux me sortir une rupture douloureuse, tu t'es fait larguer.
Non, même pas, juste parce que j'aimais faire du vélo et du coup, je me suis dit, après mes parents faisaient de la randonnée à vélo, donc j'avais cette culture déjà du vélo.
Quand même.
Ouais. Mes parents font du tandem dans un club de cyclotourisme, donc.
Je viens de me taper la cuisse, tu vois.
du coup j'avais l'habitude de rouler avec eux, donc j'avais déjà cette culture. Et après forcément il y a des gens qui dans mon entourage qui voyageaient, je connaissais des gens qui avaient fait des tours du monde, donc ça m'a poussé aussi à partir.
Voilà, donc c'est bien ce que je voulais savoir. Tu t'es pas réveillé un matin en te disant hey, papa, maman, je me casse à Athènes, vous inquiétez pas?
Non, j'avais quand même des bases.
D'accord, alors je vais essayer de pousser un petit peu. Pourquoi Athènes?
Pourquoi Athènes?
Pourquoi Istanbul?
Ouais, en plus, à l'origine, c'était Istanbul. Parce que... Alors, c'était peut-être qu'il y avait de la chaleur là-bas. Je sais pas, mais peut-être qu'il y avait de la chaleur là-bas, que c'est beaucoup moins cher que les pays nordiques, quand même. Mmh. Parce que je rêvais d'Istanbul.
Qu'est-ce qui te fait rêver à Istanbul?
C'est le bout de l'Europe.
Ouais, oui, c'est le bout de l'Europe.
C'est un peu le bout de l'Europe. Moi, j'étais jamais sorti de l'Union européenne, donc c'était un peu me retrouver un peu comme si je sortais à vélo. J'allais à un endroit où j'étais jamais allé. J'étais jamais allé aussi loin, même en avion, quoi. Donc c'était vraiment aller au bout de. C'était mon bout du monde, quoi, à l'époque.
Ben ça commence à faire loin. En effet, t'as mis combien de temps pour aller même à Athènes? Tu me l'as peut-être dit, mais je me souviens pas.
4 semaines à peu près. Après, j'ai pas pris une route très, on va dire la route traditionnelle où je traverse l'Europe par les Balkans. J'étais descendu en fait jusqu'à Barcelone. Mmh. De Barcelone, j'avais pris un bateau pour l'Italie. J'avais descendu toute l'Italie jusque dans le sud. Et après là, j'avais pris un bateau pour la Grèce et du coup, j'avais traversé une petite partie de la Grèce pour arriver à Athènes. Donc, du coup, ça a fait 3000 km quand même.
Déjà une belle balade. Pourquoi t'es pas passé par les... Pourquoi choisir de ne pas passer par les Balkans, de faire par exemple un je schématise, hein, Rouen, Genève et puis Italie, Slovénie, etc.
Parce qu'à l'époque, les montagnes elles me faisaient un peu peur, je t'avoue. Ouais. Chargées. Ouais. Et que à l'époque, j'étais dans une vision assez pendant longtemps même, j'étais dans une optique d'aller dans les grandes villes. De vouloir aller à Barcelone, à Rome, à Athènes, à Istanbul. Et du coup, j'avais envie de découvrir cette ville-là, donc c'est pour ça que aussi j'ai un peu zigzagué. Et il y avait l'opportunité de prendre le bateau entre Barcelone et Rome, qui est vraiment sympa et pas cher. Et du coup, c'est une bonne solution. Il y a 24 heures de bateau. On se retrouve, on traverse l'Atlantique, la Méditerranée avec.
Pardon.
Ouais, non, la géographie, moi, c'est, je la connais bien sur les, je connais bien la géographie terrestre, mais maritime.
Ça a dû changer ta vie quand t'as eu un GPS, hein, parce que quand même. Bon, ouais, j'arrête de moquer, ça arrive à tout le monde.
C'est vrai que les, non, le GPS, c'est vrai que c'est, je pense que c'est bien de savoir naviguer. Moi, je pense que ça m'a beaucoup apporté, ce voyage-là, d'apprendre à naviguer sur des cartes papier. Je me rappelle que pour l'anecdote qu'en Grèce, en fait, il y avait un endroit où il y avait plein de villes, et en fait toutes les villes devaient s'appeler sur mer ou quelque chose comme ça. Et tu sais, c'est des symboles en fait en Grèce sur les panneaux. Et du coup j'ai essayé de décrypter. Et, en fait je voyais ce morceau en fait qui du coup je pensais que c'était cette direction-là. En fait je me suis rendu compte que toutes les villes avaient le même bout de morceaux,
ouais,
identiques quoi. Et du coup en fait je pensais aller vers la bonne ville, mais en fait toutes les villes s'appelaient pareil, et du coup j'ai mis genre peut-être 50 km à me rendre compte que tous les panneaux il y avait marqué la même chose dessus.
On y reviendra un petit peu plus tard, mais je suppose, comme tu l'as dit à l'instant, de savoir naviguer sur des cartes plutôt que l'assistance du GPS, ça t'a certainement été d'une grande aide pour la transcontinentale.
Ouais, après j'avoue que le sur la transcontinentale, je pense qu'au niveau préparation d'itinéraire, c'est assez important, parce que ça permet vraiment de tracer, de trouver les bons itinéraires pour tracer, parce qu'on parle pas, je trouve, assez de l'importance du tracé sur la transcontinentale, parce que c'est une part tellement importante de la course, le temps qu'on passe à faire les cartes. Parce que si on, en gros, faut bien se rendre compte qu'on cartographie quand même 4000 km de route, et que bah, la moindre erreur, et bah, ça peut faire perdre des heures. Une route de montagne qui est pas asphaltée, vous plantez, parce que moi cette année on a vu des gars, l'année dernière on a vu des gars qui ont essayé de prendre des cols qui étaient des chemins de randonnée dans les Alpes, quoi. Du coup je me dis comment c'est possible de se planter à ce point-là sur sa cartographie. Et c'est vrai qu'il y a des fois il y a des grosses options, comme on a pu voir cette année, entre passer par le nord de l'Italie ou passer par le sud de la Suisse en contournant les Alpes. Et c'est vrai qu'il y avait des gros choix à faire, et qu'il faut vraiment étudier ces cartes, quoi.
Parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard, même si on a commencé à l'évoquer il y a dans l'épisode avec David Schuster, on avait déjà parlé de cette importance-là, il nous en avait parlé. Ouais. Là, on va revenir sur tes voyages. Et tu t'as fait quoi quand tu es rentré de ton premier voyage? Ça t'a fait quoi de rentrer?
En gros, je suis pas parti super longtemps le premier voyage. Du coup, ça m'a pas fait grand-chose quand je suis rentré, parce que je suis reparti en vacances faire du VTT de descente pendant un mois directement après. Donc, je suis passé d'un type de vélo à un autre type de vélo. Donc, ça m'a pas trop perturbé. Après, ça m'a donné forcément envie de repartir. Et c'est pour ça que du coup, 2 ans après, je suis reparti faire le tour du monde.
Petite parenthèse, qui s'occupe de la gestion de ton héritage qui te permet de passer ton temps à vélo sans avoir à travailler? J'aimerais bien des indications là-dessus.
Alors, pour ma première traversée de l'Europe, ça allait, c'était pendant mes vacances, j'étais à l'université, j'avais travaillé avant l'été, donc ça allait. Et après, pour mon tour du monde, en fait, pendant 2 ans, j'avais travaillé chez Renault en alternance.
Ouais.
Et du coup, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on voyage à vélo, en fait, il y a vraiment moyen de voyager pour pas cher. Ça s'apprend vraiment. En fait, j'ai fait des rencontres sur la route qui m'ont appris en fait à vraiment voyager sans argent, quoi. C'est genre si avec de l'argent, mais vraiment avec des faibles besoins. Moi, quand je suis parti au début de mon tour du monde, je dépensais 1000 euros par mois. Quand je suis à la fin de mon tour du monde, j'avais beau être en Norvège, en Suède ou en Suisse, j'arrivais à vivre avec 350 euros par mois, quoi.
Et la différence se fait à quel niveau? T'as arrêté les hôtels de luxe?
En fait, ouais, c'est qu'on apprend à vivre dans un... Je pense que le fait d'être tout le temps sur la route et ça, dans notre tête, ça change notre mode de vie. Et on se rend compte que le confort, ben, on n'en a pas besoin. On s'habitue à pas avoir de confort, en fait, au fur et à mesure. Et du coup, moi, je sais qu'en Australie, j'ai arrêté d'aller dans les hôtels J'ai arrêté les campings, je faisais que du sauvage. Ma nourriture, en fait, j'allais très peu au restaurant, j'achetais que ma nourriture en supermarché. Et en Australie, j'ai même rencontré pas mal de Français qui voyageaient à vélo, d'autres nationalités. Et en fait, en Australie, il y a tout le monde qui fait les poubelles de supermarché. Et en fait, ils balancent plein de nourriture, les Australiens. Et vous sortez à la fermeture des supermarchés, vous récupérez du fromage. Là-bas, le Babybel, c'est un fromage de luxe. Ça coûte 8 dollars les 6 ou 8 Babybel. Et là-bas, on les retrouve par dizaines dans la poubelle. On trouve du pain à 10 dollars dans la poubelle. Et en fait, on mange beaucoup mieux en mangeant les poubelles des supermarchés qu'en mangeant de la nourriture bas de gamme qu'on achète dans les supermarchés. Mmh. On trouve même des pâtes à la poubelle. Quoi. C'est ouf ce qu'on trouve là-bas. Et du coup, ouais, j'ai appris à, voilà, il y a c'est plein de techniques qui m'ont permis de voyager sans dépenser beaucoup, quoi. Et même je trouve que je fais tout en camping sauvage, même quand c'est interdit. Et je trouve que t'es beaucoup plus en osmose avec la nature dans mon sauvage que d'aller dans les campings, quoi.
Bah ça, c'est certain. Bon, y a quand même des pays où c'est interdit et c'est totalement justifié. Je me souviens de la Bosnie, par exemple, où je crois que c'est 70% du territoire qui est encore plein de mines de la guerre.
Ouais, après, il faut faire gaffe.
Plutôt chaud quand même.
Ouais. Il y a des pays où il faut faire attention, comme quand on est au Vietnam ou au Laos. Moi, justement, quand le jour, j'en parlais sur les réseaux sociaux, on en parlait sur un groupe Facebook. Et je disais, ouais, moi, ça m'avait coûté plus cher de voyager en Asie du Sud-Est que de voyager en Europe. Parce qu'en Asie du Sud-Est, le problème, c'est qu'avec la chaleur et l'humidité, on est bien content d'aller à l'hôtel ou à l'auberge jeunesse pour prendre une douche. Mmh. Parce que c'est assez dur de trouver des sources d'eau qui sont assez propres, où il n'y a pas trop de risques, justement sur les mines, des trucs comme ça. En gros, c'est plus compliqué de faire du camping sauvage là-bas. Et même pour la nourriture, vu qu'en fait, toute la nourriture, on est obligé d'aller au restaurant, vu qu'il n'y a pas de supermarché. Mmh. Et vu qu'on est en vélo, forcément, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au final, ça me coûtait plus cher de la vie en Asie du Sud-Est qu'en Australie ou en Europe de l'Ouest.
Là, tu viens de mentionner l'Australie et leur gâchis énorme. On voit souvent, j'ai l'impression qu'on voit souvent l'Australie et les Australiens comme un pays et des gens super cool. Mais je me souviens qu'il y a eu plein d'histoires de racisme, de réflexions désagréables dans les bus. Là, tu viens de parler du gâchis. Je crois qu'ils ont un rapport à l'écologie un peu bizarre. Confirmes ces défauts qu'on voit pas forcément de loin?
Alors, en fait, je pense que quand on voyage à vélo, le problème, c'est que moi, j'utilise aussi Warm Shower. Je pense que tu connais. En fait, le problème, c'est que quand tu vas dans un pays comme ça, entre les gens que tu rencontres par Warm Shower ou les autres cyclistes que tu côtoies ou les gens qui vont naturellement vers toi, en fait, souvent, c'est des gens qui sont assez proches de la tête de la planète, qui sont plus de, voilà, souvent, c'est des cyclistes. C'est des gens qui voyagent, et en fait on a souvent une vision, en fait, quand on voyage, différente du pays, parce qu'en fait on est en contact qu'avec des gens un peu dans le même esprit que nous.
Ouais.
Et du coup, moi, si je devais décrire l'Australie par les Australiens que j'ai rencontrés, je te dirais, ouais, les Australiens sont super cool et ça, mais après c'est une réalité. Si tu prends globalement les Australiens, je pense que oui, il y a beaucoup de genre, c'est un pays qui marche énormément sur l'industrie du charbon, ouais, c'est le charbon, je crois
que c'est le charbon,
c'est le charbon. Il y a beaucoup de pollution en Australie. Il y a des mines qui sont énormes. J'ai vu des mines qui sont vraiment avec des camions. C'est le pneu du camion, il arrive à ta tête arrive en bas du pneu du camion, quoi. Du coup, c'est énorme comme et je pense que oui, il y a beaucoup de gâchis là-bas, mais voilà, c'est comme aux États-Unis, quoi. Moi, les gens que j'ai rencontrés aux États-Unis, c'était que des anti-Trump, des gens qui étaient pro écologie. Donc j'ai du mal à parler, en fait, de cette vision de la population que j'ai pas forcément vue. Moi, si je l'ai vue, je l'ai pas côtoyée directement, en fait.
Ouais. Ouais, il y a aussi...
Après, je te prends un exemple. Une fois aux États-Unis, j'étais en Californie et j'étais sous la flotte, mais c'était le déluge. Le déluge, j'étais trempé en fait. Ça servait à rien de mettre un caouet tellement il pleuvait, mais c'était. J'ai rarement roulé sous autant de pluie. Et en fait, je me disais, bon, de toute façon, ça sert à rien que j'essaie de monter ma tente parce qu'il pleut tellement que je continue à rouler en essayant de trouver une maison abandonnée ou un truc comme ça pour pouvoir dormir. Et en fait, il y a des gens, ils sont arrivés en 4x4, ils ont pitié de moi et ils m'ont dit, non, mais viens chez nous. Et en fait, c'était des pro-Trump, mais vraiment très, très pro-Trump. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, il y avait des gens qui pouvaient être, tu sais, complètement dans l'idéologie de ce que tu vois sur Internet ou même à la télé. Vraiment les mêmes gens que tu te dis wow, ils sont ouf quoi sur leur discours sur les immigrants et tout ça, et pourtant ils ont été super cool avec moi, ils étaient adorables, mais on n'avait pas du tout les mêmes idéologies, et leur discours était wow, c'était impressionnant quoi.
Mais c'est parce que t'étais pas mexicain.
Ouais, certainement, mais voilà, du coup, mais tu vois, c'est, par contre, du coup, ça arrive quand même de côtoyer des gens qui sont pas du tout du même milieu. Mmh. Mais en plus, ce qui est cool quand tu vas à vélo, c'est que tu croises vraiment toutes sortes de populations. Moi, j'en rappelle avoir croisé quand j'étais en Italie, des SDF qui voyageaient avec leurs chiens. Qui venaient d'Allemagne, je crois, ils traversaient les Alpes avec des vélos, mais c'était des épaves. Ils avaient leurs chiens dans les remorques derrière, et en fait, ils descendaient vu que c'était septembre-octobre, pour aller trouver le soleil dans le sud. Et tu croises d'autres personnes qui sont rentiers et qui voyagent comme ça, et en fait, et du coup, t'arrives à tout ce petit monde-là, en fait, on roule ensemble, et tout le monde s'entend bien, alors que c'est des niveaux sociaux qui sont complètement des grands écarts, quoi.
Est-ce que ça remet un petit peu en perspective ta vision du monde? Parce que là, tu m'as donné l'exemple de la Californie, et je pense que jamais t'aurais imaginé, pas sympathiser, mais en tout cas passer un bon moment avec des gens, a priori, aux antipodes de ton mode de pensée. Est-ce que ça a changé un petit peu ta vision, justement, à ce niveau-là?
Ouais. Après, en fait, tu te rends compte que, au final, il y a des gens qui, tu peux en fait être en opposition complètement avec des personnes, et au final, quand même, pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux, et même échanger sur ce que tu penses, sans qu'il y ait de problème, quoi. Et ouais, non, c'est moi, ça m'a surpris, en fait. De pouvoir échanger justement parler politique avec des Américains et sans que genre sans problème quoi.
Ouais, ça veut dire quoi sans problème, sans finir à se taper dessus et à s'insulter?
Ouais, c'est ça, non mais c'est ça, ouais, c'était posé quoi. Après de toute façon en général les Américains ils te disent quand t'es à l'ouest du coup en Californie, ils te disent plus tu vas vers l'est plus ils sont cons. Et au début, je me suis dit, oh, c'est une légende que les gens disent. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'est qu'ils n'avaient pas forcément tort. Parce qu'en fait, plus tu vas vers le Colorado, tu passes le Colorado, en fait, et tu te retrouves dans les plaines du Kansas et tout ça.
Ouais, et, le Midwest, et ouais, là.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte que c'était des malades, quoi. En gros, faut se rendre compte que c'est tes journées, tu fais 150 km. En 150 km, en gros, tu fais 40 km tout droit, après tu tournes à 90 degrés pendant 2 km et tu reprends la même direction plein est pendant en gros 70 km, quoi, et c'est ça tes journées. Et c'est que des lignes droites, et des gens, en fait, ils sont. Il y a des gens, ils pensent que les vélos n'ont pas le droit de rouler sur la route. Mais sincèrement, quoi. J'ai une nana qui s'est arrêtée, elle m'a dit que j'avais pas le droit de faire du vélo sur la route, que c'était réservé aux voitures, quoi. Et du coup là-bas il y a des gens, faut les voir pour te dire c'est vite dans un monde quoi.
Mais oui, tu sais bien, le Midwest c'est là où il y a plein de gens qui pensent que la terre est plate, donc là, à un moment donné c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de virage, hein, parce que il n'y a pas besoin finalement, donc
Non, mais là-bas, justement, il y avait une journée que j'avais fait je crois que c'était juste après le Kansas, je sais plus quel état c'était. J'ai fait, en gros, ma map sur Strava, c'est vraiment une ligne droite. En fait, quand tu regardes à l'échelle de 100 km, t'as l'impression que c'est juste une ligne droite. Mmh. Et en fait, je crois que j'ai fait 100 km et 2500 mètres de D+. Et en fait, j'ai jamais monté, plus de, une côte de plus de 40 mètres. Mmh. En fait, ça faisait, tu montais de 30 mètres de D+, 30 ou 40 mètres de D+, à plus 10%, tu faisais moins 10%, plus 10%, moins 10%. En fait, quand t'arrivais sur une butte, en fait, tu voyais les 4 ou 5 côtes, petites côtes qu'il y avait après. Et, j'ai fait ça pendant 100 km et ouais, j'ai eu plus de 2500 mètres ou un truc comme ça de D+. Ouais. C'était, mais j'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. Les mecs, ils tracent tout droit au bulldozer et ils font pas de virage, quoi.
Ben, je sais pas si t'es un habitué du podcast ou pas, mais pour ceux qui le sont, vous vous souvenez peut-être de l'épisode avec Johanna Ficatier, qui habite dans le Minnesota, je crois, et elle me parlait des courses gravel là-bas, et ils ont pas dit, tu sais, nous, on reçoit un GPX, on reçoit la trace et tout. Ouais. Et eux, non, ils reçoivent un petit bout de papier où ils notent vite fait, tu vas tout droit, tu tournes à gauche, comme tu viens de dire, en fait. Tu prends à droite, tu reviens, tu prends à gauche au PMU, s'il y en a un. Et puis voilà, c'est l'arrivée. Mais c'est tellement rectiligne, tu vois, et c'est tellement impossible de se tromper que, c'est un petit peu monotone quand même.
Ouais, il y a un Américain que je suis qui s'appelle Paul Chogo. C'est un gars qui a fait plusieurs fois la transcontinentale je suis sur ce travail. Il était à la transcontinentale l'année dernière. Et en fait, quand il s'entraîne, ce gars-là, je crois qu'il habite au Kansas, justement. Et en fait, c'est sorti. C'est des trucs géométriques à chaque fois. Tu fais, ouais. Il a fait 200 km, mais en fait, il a juste fait un triangle, quoi. C'est assez impressionnant, c'est sorti.
Ah, c'est pas facile de dessiner une bite, hein, dans ces cas-là. Hein.
Non, non. Non, je crois pas, là, parce que c'est, en plus, ça va être assez monotone, vu que c'est tout plat.
C'est clair. Ton tour du monde, tu l'as fait, tu l'as tracé de manière, comment tu l'as tracé? Comment t'as déterminé ton itinéraire? Et quel pays tu as décidé d'éviter volontairement? La semaine dernière, ouais, avec Pierre Gouillou-Beauchamp, on a parlé de l'Iran, de l'Afghanistan, de l'Irak. Il y a forcément un moment donné où t'es passé vers l'Asie centrale ou Moyen-Orient. Comment t'as géré ton itinéraire et cette zone-là, justement?
Alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu trop de choix sur les dates de départ. En fait, je suis parti en juin. Et le problème, c'est que c'est super tard pour partir, pour être au bon moment, en fait, dans l'Asie, en Asie centrale. Du coup, c'est pour ça que je suis allé assez vite au départ, parce que je voulais passer la Mongolie, en fait, avant l'hiver. Mmh. Et du coup, je suis allé j'ai fait Rouen, Tbilissi, en Géorgie. Et j'aurais pas pu, le problème, c'est qu'il fallait, c'était compliqué d'avoir le visa pour le Turkménistan à l'époque. Fallait prendre le bateau entre la Géorgie et entre l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. Et le problème, c'est que le bateau à l'époque, il était très irrégulier, c'était très compliqué de pouvoir monter dedans. Mmh. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que je voulais absolument traverser la Mongolie, donc j'avais pris l'avion de Tbilissi jusqu'à Astana au Kazakhstan, et j'avais traversé le Kazakhstan, la Sibérie, de l'Altaï russe là, et la Mongolie. Et en fait, après, quand je suis parti faire le tour du monde, en fait, je devais pas faire le tour du monde, j'ai allé jusqu'à Sydney pendant un an, quoi. Et sauf que quand je suis arrivé en Mongolie, on m'a refusé le visa chinois parce qu'il y avait une grosse embrouille entre la France, genre l'Union européenne et les Chinois à ce moment-là. Et du coup, c'était impossible d'avoir un visa pour la Chine. Et du coup, j'ai pas eu trop le choix pour devoir quitter, vu que la Mongolie, il y a que deux frontières, c'est la Russie d'où je venais, donc je pouvais pas y retourner, et la Mongolie. C'était soit je rentrais en France, j'étais obligé d'aller directement au Vietnam. Du coup, je me suis retrouvé au Vietnam beaucoup plus tôt que prévu. Mmh. Parce que la Chine, c'est quand même une grosse partie de l'itinéraire. Et du coup, j'ai fait tout le tour de l'Asie du Sud-Est, j'ai fait le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie. Je suis arrivé à Singapour. En fait, l'Asie du Sud-Est, passer de la Mongolie à l'Asie du Sud-Est, c'était très dur. Parce qu'en fait, t'es en Mongolie, où il fait, t'as des journées à 30 degrés, les nuits il fait 0 degré, genre il même neige, je me suis retrouvé sous la neige là-bas, t'es vraiment plein dans la nature, et en fait quand t'arrives en Asie du Sud-Est, c'est beaucoup plus urbain, il fait chaud, humide, du coup j'ai eu du mal à m'habituer, et c'est surtout la circulation, à l'époque je faisais pas trop de, j'avais un peu peur d'aller dans les trucs gravel, et ça, et quand je me suis retrouvé en Malaisie de ça, dans la circulation tout le temps, j'en ai eu marre de l'Asie Sud-Est, et du coup à Singapour j'ai préféré squeezer l'Indonésie et aller directement en Australie, et du coup j'ai traversé tout l'Australie de Perth à Sydney, et du coup ça m'a fait arriver beaucoup plus tôt que prévu à Sydney, et du coup bah, à ce moment là je me suis dit bon bah, tant qu'à faire, au lieu de rentrer directement en France, je vais faire un petit tour en Nouvelle-Zélande, je vais traverser les États-Unis et je vais aller au Cap Nord et je vais revenir en France.
Tranquille, je fais un détour, je vais chercher le pain, à l'aise.
Bah non, mais après, voilà, en fait, j'ai regardé comment je pouvais revenir en France, les moyens que j'avais de revenir en France de l'Australie. Et en fait, j'avais trouvé un billet pas trop cher pour de Nouvelle-Zélande jusqu'à San Francisco. Et après, en fait, l'avantage d'être en vélo, c'est qu'on n'est pas et qu'on n'a pas de date de retour précise. C'est qu'en fait, on peut trouver des vols vraiment pas chers. En fait, par exemple, quand j'ai voulu revenir des États-Unis vers l'Europe, en fait, moi, j'avais pas trop regardé les lieux de départ et les lieux d'arrivée. En fait, j'ai juste cherché sur la côte est. Non, c'est la côte est américaine, c'est ça. Quel vol était moins cher pour l'Europe? Et en fait, j'ai trouvé un vol New York Oslo à 200 €, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait bon, bah, parfait.
Et du coup, je suppose que tu es rentré de Oslo à vélo.
Alors il y avait un super bon plan, c'était la compagnie norvégienne. En fait, avec Norwegian, quand vous prenez un vol international, vous avez un vol intérieur pratiquement pour le même prix. Du coup, en fait, quand vous êtes à Oslo, vous pouvez reprendre un vol pour aller pratiquement au Cap Nord et pour le même prix. Du coup, j'avais fait New York Oslo, et Oslo, j'étais arrivé au début des Lofoten, donc j'avais fait 1000 km pour remonter jusqu'au Cap Nord. Et du Cap Nord, après je suis redescendu jusqu'à Vienne, et de Vienne j'ai tracé toutes les Alpes jusqu'à Nice, et après je suis remonté à Rouen, ce qui me manquait quelques kilomètres pour avoir mes 40 000 km, pour avoir fait l'équivalent d'un tour du monde par l'Équateur. Du coup j'ai fait un petit détour avant de rentrer.
J'ai fait un détour par Brest, comme ça j'avais mes 40 000.
C'est ça, en gros, il fallait que je fasse un petit tour de France supplémentaire pour, ouais. Il me manquait 2-3 000 km, du coup. Mais je regrette pas d'avoir fini par un tour de France parce que, en fait, on se rend compte qu'on a quand même un pays qu'on connaît pas forcément beaucoup et qui est magnifique, quoi, qui est un des plus beaux pays au monde, si ce n'est le plus beau pays au monde, quoi.
Ça aurait été un regret quand même de... Plutôt, avant ça, t'en avais pas marre quand t'es arrivé à Vienne ou à Nice et te dire, bon, finalement, je suis quand même pas loin de Rouen, je prends un avion, je rentre et voilà.
Non, parce que, en fait, alors il y a eu deux choses. C'est le retour en Union, quand j'ai passé quand même pas mal de temps, du coup, dans des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis, où on mange pas forcément bien. Parce que du coup j'ai passé 3 mois en Australie, 3 mois aux États-Unis et 1 ou 2 mois en Nouvelle-Zélande, donc ça fait quand même 7, ouais, j'ai passé peut-être 8 mois, 8 mois dans des pays on va dire très consommateurs. Et quand je suis revenu en Union européenne, juste le fait de retrouver les toutes petites routes, quand tu passes des grandes routes aux États-Unis aux toutes petites routes des Lofoten, où en fait tu fais mais c'est pas possible, il y a 2 voies, mais j'ai l'impression que ça fait la taille d'une voie, quoi. Que tu retrouves la nourriture européenne, le fromage, c'est assez hallucinant, surtout que je me suis retrouvé, voilà, en Norvège où c'est quand même t'as des zones où pendant 5 km tu vois pas personne, et quand t'es aux États-Unis où c'est que des champs, en fait je trouve que c'est beaucoup plus motivant, en fait, de rouler dans ces décors là. Et surtout après, en fait, moi quand je suis parti de mon tour du monde, par exemple, tu vois, quand j'ai traversé l'Europe, j'ai scrupuleusement contourné les montagnes pour aller au plus plat possible. C'est-à-dire que j'ai pris l'Eurovélo 6 et jusqu'en Bulgarie. En Bulgarie, je suis passé j'ai fait un peu de détour pour éviter au maximum les montagnes. Et parce qu'à l'époque, je cherchais à aller vite et du coup, je voulais faire du kilomètre. Et en fait, plus j'ai avancé dans mon tour du monde, plus j'étais attiré par les montagnes et plus je cherchais à plus aller faire des tours dans les montagnes, aller monter tel col ou tel col. même quitte à perdre à faire moins de kilomètres. Et en fait, la fin de mon tour du monde, c'était l'apothéose où voilà, j'ai traversé toutes les Alpes en faisant tous les plus gros cols de chaque pays. Et en fait, c'était en septembre. Du coup, il y a personne sur les routes en septembre. Et t'es dans le col de l'Isran, tu montes Val d'Isère, tu vois un humain. Et dans le col de l'Isran, après Val d'Isère, tu te fais doubler par deux voitures, quoi. C'est la montagne est à toi, et avec les couleurs en fait du début de l'automne, genre fin été, c'est magnifique, quoi.
En plus, la route pour monter, alors je sais plus quel côté, je crois que c'est par Ross. Ouais, c'est par Ossois, c'est possible. C'est vraiment pas large par endroit. Il y a deux accès. Moi, j'en avais fait un par, je sais plus. C'était il y a tellement longtemps.
Il y en a un qui démarre par un petit village en bas qui est très connu, avec des petites maisons en pierre.
Super. Alors, un petit village de montagne avec des maisons en pierre. Attends.
Non, mais super connu. C'est un des villages les plus beaux villages de France.
Bah attends, je cherche.
Attends, je vais te retrouver sur Google.
Ouais, pareil.
C'est alors on va dire le nom, on va faire
Bonneval. Alors moi je suis monté par Bonneval-sur-Arc.
Voilà, Bonneval-sur-Arc.
Ah bon, c'est joli là.
L'autre côté. Ah ouais, c'est magnifique ce village là.
Ouais, moi je suis monté par. Bah là je me souviens pas en même temps parce que c'était il y a très très longtemps.
Bah, je pourrais t'envoyer les photos, tu vas voir, c'est un. Attends. C'est où Briançon, non, c'est où tu.
On fait une petite pause géographique.
Ouais. Tigne, alors Tigne.
Oui, bah,
au
soi, c'est un petit peu en dessous, effectivement.
Faut vraiment à cette période-là, je conseille d'aller traverser les cols en septembre parce qu'il n'y a personne et on est beaucoup plus tranquille sur la route.
Ouais. Bah surtout, oui, comme je te disais, la route est vraiment pas large.
Ouais.
Et surtout à la descente, quand tu te laisses un petit peu emporter par l'enthousiasme. Et que tu te mens, que t'as toute une enfilade de camping-cars derrière ou devant, ouais. C'est vraiment pas agréable.
Surtout vélo chargé, quand le vélo est chargé.
Oui, dire, en plus. En plus, toi, avec tout le barda. Ouais, exactement. Quand tu as passé le col de l'Isran, tu es passé par où après? Parce que là, vu qu'on a la carte sous les yeux, et j'encourage tout le monde à en faire de même.
Alors par où je suis passé, j'ai descendu l'Isran, je suis descendu à Saint-Jean-de-Maurienne après,
ouais.
J'ai rencontré un super grimpeur là-bas, j'ai monté le Galibier, et après le Galibier j'ai fait quoi? J'ai fait Valoir, Galibier, Briançon. Bon, de toute façon, une fois que t'es en haut du Galibier, tu descends jusqu'à Briançon. Après j'avais suivi la route des Grands Alpes, donc j'avais fait Col de Var, je crois, après. Vars, je sais jamais si c'est
Vars
ou Vars.
Ouais.
Et après, j'avais fait le col de la Cayolle. J'ai dû en oublier un entre deux. Et après, j'étais descendu jusqu'à Nice avec du petit col.
D'accord. Bah, ça fait une bonne balade.
Ouais, le col de la bonne chose, le col de la Cayolle. En fin septembre, tu peux dormir. Je crois que c'était début octobre à ce moment-là. Tu peux dormir en haut. J'ai dormi en haut sous les étoiles dans ma tente. C'était magnifique, quoi.
Quand tu es rentré de ton voyage, je vais te poser la même question qu'à Pierre la semaine dernière. Quand tu es rentré de ton voyage.
D'ailleurs, Pierre, en fait, c'est assez ouf parce que j'ai changé avec lui pendant mon voyage, parce qu'on a fait, quand il allait vers la Mongolie, en fait, il y était à la même période que moi.
Et, ok.
Et du coup, je sais plus s'il était en avance sur moi ou en retard sur moi, tu sais, en arrière sur moi.
Ouais.
Et du coup, on avait échangé ensemble. Du coup, moi, je le connaissais déjà avant la classe Mountain Race.
D'accord.
Le monde est petit, en fait. Tu te rends compte que le monde est vraiment petit dans
vraiment
le voyage
trop petit.
À vélo ou dans l'endurance. C'est assez ouf. Tous les gens que tu peux rencontrer à droite ou à gauche. Même, il y avait des mecs que je suivais sur Facebook que j'avais jamais vus. Et que j'ai pensé qu'ils étaient en Chine, et en fait je les ai croisés au fin fond d'une piste en Mongolie, et j'avais pas tilté que c'était eux, en fait, et j'ai fait mais c'est vous sur cette vidéo? Je fais ouais, c'est nous. Et en fait, du coup, tu te rends compte que le monde est tout petit.
Des hasards comme ça.
Ouais.
Bon, alors du coup, venons-en à la question. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que, comme Pierre, tu décides de t'aligner au départ d'une épreuve comme la transcontinentale?
Bon, j'étais la transcontinentale, on m'a toujours fait rêver. C'était une course depuis la deuxième édition. C'est une course que je suis plus ou moins. Genre, plus les éditions avançaient dans le temps, plus je la suivais la course. Et donc c'est une course qui m'a toujours fait rêver. Et je pensais, à aucun moment, je me suis dit ouais, je vais faire cette course-là. Je considérais même que c'est une course qui était bien trop dangereuse pour aller la faire. Et en fait, j'ai un pote qui m'a dit vas-y, je dois faire la transcontinentale. Et du coup, il m'a chauffé. Et du coup, on est tous les deux partis pour faire la transcontinentale. Mais je pense que sans lui, il s'appelle Simon, il était à la trans avec moi. Et je pense que sans lui, je pense que je ne serais pas lancé dans la transcontinentale.
Et tu regrettes ?
Non, pas du tout.
Ça s'est passé comment ? Raconte.
En gros, on fait des sorties, on ramène des raids du mercredi à Rouen. Et un raid du mercredi, il m'a dit ouais, je voudrais te parler, je voudrais aller faire la transcontinentale. Et en fait, ça m'a paru un peu fou parce qu'il n'avait jamais fait d'endurance ou quoi. Et je lui ai dit mais tu sais, c'est chaud et tout ça, c'est une grosse course. Et du coup, il m'a chauffé au bar. Et du coup, j'ai commencé mon entraînement. Et j'ai fait la transcontinentale, mais j'avais toujours dit à mes parents, je ferai jamais la transcontinentale parce que c'est sur route ouverte, il n'y a pas de parcours, du coup, si tu veux faire un classement, il faut prendre les grosses routes, j'ai toujours considéré, voilà, cette course comme trop dangereuse, et j'ai toujours dit à mes parents, non, je ne ferai pas ça, j'irai pas la transcontinentale, et donc, pour eux, j'y suis allé.
Voilà. Vous parlez encore quand même?
Oui, non, mais il y a pas de souci, mais bon, faut jamais dire, ouais, j'irai jamais faire telle ou telle course parce que voilà, on se retrouve toujours dedans.
Ouais. Il faut pas se mentir, hein. Ça finit toujours par nous rattraper. Et alors, ça s'est passé comment cette TCR? Vous êtes parti d'où cette année-là? C'était en 2018, donc, c'est ça?
C'était en 2018, ouais, c'était l'année dernière. Du coup, on est parti de Bourgas et on est allé jusqu'à Brest. Du coup, ça s'est plutôt vraiment bien passé, hein, parce que vu que c'est. Genre, pour moi, c'était de la folie, même après un tour du monde, faire une transcontinentale. C'était de la folie, juste de me dire que j'allais faire 4000 km en moins de 2 semaines, ça faisait plus de 250. En gros, juste pour finir un délai, il fallait faire 250 km par jour. Je me disais, déjà en voyage, j'avais jamais fait 250 km par jour. La plus grosse étape, c'était à peine 200 km. Voilà, même quand on est de l'espoir, on se dit, ouais, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que là, cette année, je finis 9e. Et en fait, je me suis énormément entraîné. J'avais fait 12 000 km avant la course. Et en fait, je me suis pris dans le jeu pendant la course. Et plus avancé, mieux j'étais classé et plus forcé. Et jusqu'à finir en top 10, alors que je voulais vraiment, au départ, j'étais vraiment là pour juste à finir, quoi.
Tu t'es préparé à quoi finalement? Parce que tu revenais d'un voyage, même si t'as pas fait 250 km, t'as quand même poussé avec tout ton barda et on peut considérer que ça fait quand même une sacrée préparation. Qu'est-ce que ça change?
Comment ça, qu'est-ce que ça change au niveau de...
Ouais, de ta... Comment tu l'as abordé finalement? Tu t'es dit là, il faut que je m'entraîne. Alors tu t'es entraîné pour faire quoi? Et comment t'as fait ça?
En gros, moi, j'avais fait le Paris-Brest-Paris où j'avais beaucoup roulé. En gros, j'avais pour préparer le Paris-Brest-Paris, tu dois faire des brevets de 100, 300, 400, 600 km. Et en fait, vu que c'était l'année du Paris-Brest-Paris, la dernière transcontinentale, en fait, je m'étais un peu préparé comme un Paris-Brest-Paris, mais en beaucoup plus poussé. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, je faisais tous les brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris. Et en fait, souvent, je les faisais deux fois. Donc, je faisais deux fois le 200, deux fois le 300, deux fois le 400. Et je roulais, en gros, je faisais beaucoup de sorties d'endurance. Des fois, je partais juste deux jours pour faire 600 km. Et du coup, ouais, je roulais énormément, mais surtout en endurance, parce que voilà, moi, ce qui me faisait peur, c'est de tenir plusieurs jours, 16 heures par jour pendant plusieurs jours, quoi, pendant autant de jours, parce que j'ai déjà fait, voilà, Paris-Brest-Paris, mais c'est 4 jours, quoi, c'est 1000 km. Et en fait, quand moi, je me suis vu à la fin de l'état de Paris-Brest-Paris, je l'ai fait en 3 jours, et dans l'état dans lequel j'étais au bout de 3 jours, en faisant 400 km par jour, je me suis dit, mais comment c'est possible de faire 3 fois cette distance-là de suite? Ça me paraissait complètement fou. Du coup, moi, j'avais déjà cette expérience, et c'est pour ça que j'avais peur. Donc, je roulais énormément pour m'entraîner à tenir la distance, quoi.
Mais peut-être que sur ton Paris-Brest-Paris, tu poussais largement plus, alors que sur une TCR, tu adoptais un rythme moins soutenu. Même si au fur et à mesure, tu t'es mis à accélérer.
Ouais. Alors au début, moi, je suis parti quand même assez tranquille sur la transcontinentale parce que j'étais en mode, je venais pour la finir, c'était ma première. J'avais quand même un objectif de finir dans le top 30, quoi, parce que je savais que voilà, je m'étais quand même beaucoup entraîné. Mais après, mon objectif principal, c'était juste de la finir. Après, j'étais encore plus content si j'étais dans les 30 premiers. Mais c'est vrai que j'ai quand même, au début, je suis parti tranquille. J'ai senti dans les que j'étais encore frais, que je voyais tous les gens autour de moi qui commençaient à être vraiment pas bien. Les Alpes, ça m'a libéré, en fait. Donc, ça a été la même chose que mon tour du monde. En fait, mes démons de mon tour du monde sont revenus. En fait, au début, j'avais peur de la montagne. Du coup, c'est vrai que moi, j'ai tracé des étapes, je me rappelle, dans les Alpes, où pour 300 km, moins de 300 km, j'avais 6000 mètres de D+. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de faire 6000 mètres de D+ en une journée en vélo. Et en fait, ça me paraissait monter trois cols à 2000 dans la journée, après avoir fait 5 jours de vélo pendant 18 heures par jour, ça me semblait complètement ouf. Et en fait, l'endroit où qui a été le plus facile pour moi, ça a été la montagne dans la transcontinentale. J'ai perdu par rapport au premier, j'ai perdu pratiquement 12 heures dans les Balkans où c'était tout plat. Parce que ça avait beau être plat, il y avait un peu de vent de face, j'avançais pas et j'ai perdu, je faisais peut-être 350 km par jour, alors que les meilleurs étaient à plus de 400. Je devais être 300-320 par jour. Alors que dans les Alpes, en fait, je roulais super bien. Parce que je suis assez au niveau, je suis un petit gabarit, hein, je fais 1m60 pour 60 kilos. Du coup, je monte assez bien dans les Alpes.
D'accord.
Mais du coup, ça m'a vraiment libéré parce que quand j'ai vu que les autres commençaient à ralentir et que moi j'étais bien, je me suis mis à accélérer. Je me rappelle un jour en Suisse, malgré le D+, j'ai réussi à faire 400 km dans la journée. Et en fait, je suis remonté en Suisse, dans les Alpes, je suis remonté dans le top 10, et après, du coup, j'étais dans un autre monde, et j'ai pratiquement pas dormi jusqu'à l'arrivée de l'Alpe d'Huez jusqu'à Brest.
C'est quand tu dis ça m'a libéré, ça veut dire quoi? Que bon, tu avais peur de la montagne, d'accord, mais ça, tu avais pas tout à fait confiance en tes capacités?
Ouais, moi j'étais en stress. Je pense que genre, tout le monde sur la transcontinentale communique beaucoup avec une personne pendant la course. Moi, c'était avec mon père. Il y avait deux personnes avec qui je communiquais beaucoup. C'était avec Eric, un des membres de mon club, et mon père. Et en fait, mon père, plus j'allais m'approcher des Alpes, plus j'étais là, plus il voyait que j'étais pas en confiance. Et en fait, la première journée des Alpes, il m'a dit, tu vois, c'est passé comme t'as super bien monté, ça s'est bien passé. Et en fait, c'est vrai que moi, ça m'a complètement libéré parce que j'avais vraiment, plus je m'approchais des Alpes, plus j'avais cette pression de me disant, est-ce que je vais réussir à passer les Alpes sans me cracher, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu que je remontais, que du coup, je me suis dit, je vais rouler plus longtemps le soir, je vais pratiquement pas dormir les nuits. Je voyais que j'étais bien. Et en fait, plus j'avançais vers l'arrivée, plus je roulais vite, quoi, et plus j'arrivais à ne pas dormir. Et voilà, quoi.
Ça te donne.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Suisse, je crois que la traversée de la Suisse, je l'ai fait en 24 heures. En fait, j'ai beaucoup roulé à proximité de Sofiane. Sofiane, que tu as dû interviewer, je crois, juste après la course. Pas Sofiane, Stéphane, désolé.
Stéphane, ouais.
Oui, Stéphane, pas Sofiane. J'ai beaucoup roulé avec Stéphane Ouadja. Ouais. On n'a pas roulé directement ensemble, mais en gros, on était souvent en proximité. Et en fait, on se poussait énormément parce que le soir, il me disait, tu vas rouler jusqu'où? Et en fait, je lui disais, par exemple, quand on était en France, on était à 100 km d'écart l'un de l'autre. Moi, j'étais passé en dessous de Lyon et lui, il était passé au-dessus de Lyon. Et en fait, il commençait à faire nuit et il y avait Moulins qui était à 100 km. Et en fait, tous les deux, on se disait, c'est impossible d'aller à Moulins ce soir. Et à Stéphane, j'ai envoyé un message sur Messenger et je dis moulin pour interrogation et il me fait vas-y. Et du coup là en fait pendant on s'est fixé le même objectif, c'était le F1 Moulin. Et on savait qu'il était ouvert 24h/24. Et en fait, on est arrivé pratiquement au même moment à Moulin. Et en fait, je pense que si on n'avait pas été là tous les deux à se pousser, on serait jamais allé jusqu'à Moulin, en fait. Mmh. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que vu qu'on se battait à ce moment-là pour le top 10 de la transcontinentale, bah, tous nos concurrents qui étaient autour de nous, en fait, tout le monde s'observait et personne n'allait dormir tant que il y en avait pas un qui allait dormir. Et du coup, bah en fait, ce soir-là, il y a tout le monde qui a roulé jusqu'à 4h du mat, ou 2h, je sais plus du mat, parce que nous, on s'arrêtait pas quoi. Et c'est vrai qu'avec tous les, on était un petit paquet de 5-6 gars et on se battait. Voilà, il y avait peut-être deux places pour le top 10 et on se battait et on s'est tellement poussé que c'était assez ouf.
Tout à l'heure, tu disais que le traçage est très important et je t'ai dit qu'on en avait déjà parlé avec avec David Schuster et on avait déjà évoqué ça. Enfin, on en a souvent parlé de la victoire de Fiona Kolbringer qui était pas juste, enfin qui était vraiment la victoire de l'intelligence de course. Ça change quoi? Oui. Même si tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu peux revenir sur l'importance du traçage.
En fait le truc c'est que on passe des heures à tracer le parcours. Il suffit que vous ayez pris une piste cyclable qui est pas asphaltée, que vous la passez de nuit, qu'il y a plein de trous dedans, que vous crevez, ça peut faire perdre énormément de temps quoi. Vous tracez mal, vous passez dans un, vous rendez compte que en fait vous avez tracé par une route qui est en cul-de-sac, vous devez faire un détour de 30 km. Et ça fait perdre énormément de temps, mais c'est surtout psychologique. Parce que quand vous perdez un kilomètre sur la transcontinentale, psychologiquement, quand il est 3h du matin et que vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise route ou quoi, et ben, ça vous flingue le moral. Et même si ça va pas vous perdre beaucoup de temps, directement, de faire le détour, mentalement ça va tellement vous fatiguer que vous allez rouler moins fort. Et moi je me rappelle un matin, je m'arrête dans un arrêt de bus en Suisse, je repars le matin et en fait j'arrive, je fais 5 km même pas et la route que je devais emprunter, elle était fermée. Du coup je passe quand même la barrière, je continue et là il y avait une autoroute en construction ou un chemin de fer et en fait ils avaient complètement coupé la route en deux. La route, ce qu'ils construisaient c'était peut-être 10 mètres en dessous d'où j'étais et il n'y avait pas moyen de descendre pour remonter de l'autre côté. Et en fait la route du coup elle avait disparu quoi. Et en fait il y avait, pour traverser cette partie-là, il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Et du coup moi j'ai continué, donc j'étais sur un chemin qu'ils avaient créé pour faire les chantiers. Du coup j'ai commencé à essayer de remonter, de longer le fossé où ils construisaient, je sais pas trop, l'autoroute ou le chemin de fer. Mm-hmm. Pendant plusieurs kilomètres, pas moins de traversée. Du coup je reviens en arrière et en fait là je vois au moins qu'il y avait un pont, mais forcément il était pas sur mes cartes vu qu'il n'existait pas le pont.
Oui.
Et du coup le pont était déjà ouvert, donc j'ai pu emprunter le pont et j'ai pu revenir. Mais en fait, du coup, ça m'a fait peut-être perdre une demi-heure, mais ça m'a énervé, quoi, parce que le matin, quand tu te réveilles, en plus, cette nuit-là, j'ai même pas dormi, j'ai dû dormir une heure et demie, quoi. Et quand tu repars et que direct, tu perds une demi-heure, tu te dis, j'ai pas dormi de la nuit, et c'est pour perdre une demi-heure, pour ne pas avancer, quoi.
Est-ce que...
Du coup, tu vois, c'est plein de trucs et moi, j'ai fait très peu d'erreurs de navigation, mais il y a des erreurs comme ça déjà que tu peux pas éviter parce que tu peux pas, même en regardant Google Maps et ça, tu peux pas savoir que la route, elle est fermée parce qu'ils construisent une voie ferroviaire, quoi. Et déjà, tu sais que tu vas perdre du temps sur des trucs comme ça et faut faire attention, même sur les pénalités. On est énormément à cette prise des pénalités parce qu'on n'avait pas respecté des tunnels qui étaient interdits, des morceaux de route qui étaient interdits, donc faut faire vraiment attention.
Comment tu gères justement ces petites frustrations, ces moments de colère, comme tu dis justement, où tu dors pas de la nuit, tu te lèves et tous ces efforts sont en partie gâchés à cause d'une saloperie de pont. Comment tu gères ça maintenant? Est-ce que tu le gères mieux et comment t'as fait?
Si tu l'as... Alors ça dépend, là j'avais plutôt J'étais un peu dans l'énervement, mais à partir du moment où j'ai trouvé le pont et que j'étais reparti sur la route, vu que j'étais physiquement bien et que c'était au moment où j'étais en train de remonter comme une flèche sur tout le monde, ça m'a pas trop pesé. Donc je suis quand même reparti bien dans ma course. Après, je pense que chacun gère différemment et ça dépend un peu de ton état de fatigue. Moi, je sais que quand j'étais le seul moment où j'ai pété littéralement un câble, c'est quand j'étais dans la montée de l'Alpe d'Huez en gravel. J'avais fait, du coup, c'était la fin des Alpes. J'avais fait une journée où j'avais déjà monté. Donc la veille, j'avais fait 400 km en Suisse. J'étais parti de Genève le matin, ou d'à côté du Genève. J'avais traversé donc les Alpes en montant le Galibier. Et après, là, j'arrive, il commençait à faire nuit, et je monte l'Alpe d'Huez, et après l'Alpe d'Huez, je devais redescendre à Bourg d'Oisans, où il y avait le CP4. Et en fait, l'Alpe d'Huez en gravel, c'était de nuit, c'était horrible, parce que j'étais trop fatigué pour réussir à rouler avec le... J'étais en 30-30 au niveau des transmissions, et avec la fatigue, j'arrivais pas à monter avec le 30-30. Et du coup, j'arrêtais pas de marcher. Et en fait, j'avais un Américain qui était devant moi et je voyais sa lumière dans la montagne. Plus j'avançais, plus elle s'éloignait. Et en fait, plus je voyais que vu qu'il fait nuit, en fait, tu vois pas la montagne en face de toi. Mais du coup, j'avais son point de lumière et en fait, je me disais, mais ça, je vais jamais en terminer parce que il était tellement loin et tellement son point de lumière que, en fait, je me suis excité, j'ai gueulé comme un fou dans la montagne. J'étais hors de moi, quoi. Et je me suis dit, mais en plus, il y avait t'avais un ravin qui était juste à côté de la piste. J'ai fait tomber dans le ravin vu que j'étais énervé. Et je me suis dit, mais c'est quoi pourquoi ils vont nous envoyer sur des pistes comme ça en pleine nuit, genre on est là pour faire du vélo de route. Et du coup, je me suis excité sur l'organisation dans ma tête. Et alors que, tu vois, genre c'est une des plus belles parties de la transcontinentale, je pense. Mais quand t'es dedans, en fait, tu t'énerves et t'es pas maîtrisable, quoi. Mais c'est le seul moment où je me suis vraiment énervé de la course.
Et comment tu t'es calmé alors?
En fait, dès que t'arrives, tu commences à descendre, donc déjà, t'es content quand t'arrives au sommet.
Ouais.
Et tu t'arrives à l'hôtel, tu vois tous les mecs de l'organisation et tout ça, et en fait, ça part, t'es juste content de.
Tu les as pas insultés?
Non, même pas. Après, à l'Atlas Mountain Race, c'était un peu différent. Je me suis un peu, on s'est un peu pris le bec avec, comment il s'appelle?
Nelson?
Ah, Nelson, ouais. En haut de la piste, mais je lui ai dit après, voilà, moi j'étais dans la course, forcément, tu étais dans une piste défoncée, t'es obligé de marcher à côté du vélo, t'as plus assez d'eau parce que tu pensais pas que c'était aussi défoncé, donc tu t'énerves. Et je pense que Nelson doit avoir l'expérience d'avoir
des
mecs qui sont énervés et qui après viennent me voir et me disent, je suis désolé. Mais je pense que voilà, c'est dans la course et surtout avec la fatigue c'est très dur de gérer cet énervement et il y a pas mal de personnes en endurance. Moi, j'avais entendu parler de plusieurs histoires où on juge des personnes sur des réactions qu'ils ont eues en course parce que je me rappelle il y avait une histoire sur la Transam il y avait un gars, alors je sais plus qui c'était, qui avait proposé à Leila, je crois, de finir ensemble la course. Et je pense qu'il y a beaucoup de décisions et de trucs qu'on fait en course qu'on n'aurait pas fait si on avait été raisonné et si on avait si notre cerveau avait fonctionné normalement, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent en course que les gens, faut pas qu'ils les jugent parce que faut connaître, en fait faut déjà avoir été dans cet état-là pour comprendre qu'il y a des décisions qui sont mauvaises qu'on prenne, mais que on est plus maître de nos décisions, quoi, parce que notre cerveau il marche différemment, quoi. Ouais. On est plus lucide et voilà, on peut faire des choses qu'on regrette, et je pense qu'il faut pas juger des personnes sur des choses qu'ils ont fait en course parce que ouais, ils étaient pas forcément lucides quand ils ont pris ces décisions là
Et qu'est-ce qui t'a incité à aller à l'Atlas? Et c'est promis, c'est la dernière fois que je parle de l'Atlas Mountain Race. C'est promis, j'arrête après ça.
Alors l'Alsace, en fait, j'avais pas du tout entendu parler de l'Alsace. Je devais partir faire la Biking Man à Oman.
Ouais.
Et du coup, en fait, c'est Stéphane, il m'a dit, oh bah tiens, moi je vais faire l'Atlas Mountain Race en février. Et du coup, j'ai regardé, je suis tombé sur le site internet, ça m'a paru vraiment sympa. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire l'Atlas Mountain Race. En plus, j'avais un rose back road. Du coup, c'était un gravel, je me suis dit, bon, ça va passer. Et du coup, bah, c'est pour ça. En plus, je me suis dit, bon, il y a Stéphane qui vient. Je l'aime bien, je me suis dit, ça allait être cool. Et voilà quoi. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur Stéphane, sur Atlas.
Oh non, mais ça m'est égal, les gars. Vous faites comme vous voulez. C'est cool. On n'est pas là pour juger. Mais il me l'avait quand même bien caché, ça. C'est pas grave. Par contre, l'Atlas en gravel, c'est pas un petit peu tape-cul? Sans faire de mauvais jeu de mots?
Moi je déconseille de partir je pense que j'étais le seul gars à partir en plus de 42 avec des chambres à air.
Non, je pense qui est parti en chambre à air également et qui le regrette amèrement. Je crois que c'est Adrien qui fait 5e. Il était en chambre aussi et je crois qu'il regrette aujourd'hui encore. Et ouais. Bah oui, non mais les mecs, sans déconner, quelle idée, chambre à air 2020. Oh.
J'ai jamais roulé en tubeless, hein. Je savais même pas, j'ai toujours été en tout cas en route, je savais même pas qu'on roulait plus en tubeless. En plus, je savais pas comment réparer. Déjà, on avait un groupe Facebook en fait avec tous les Français qui étaient au départ de l'Atlas. Mmh. Et tout le monde parlait de tubeless et j'ai hésité à partir en tubeless. Et je me suis dit, attends, j'ai jamais roulé en tubeless, je sais même pas mettre une mèche. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est trop dangereux de partir en tubeless. Ouais. Du coup, je suis parti en chambre à air. Mais bon, j'ai dû crever, j'ai passé tout du faux, voire plus pour ma course. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'était des micro crevaisons. Qui était très lente, du coup en fait je pouvais rouler pendant 30-40 km et au bout de 40 km quand j'entendais une pierre qui claquait sur la jambe parce que j'étais passé de gonfler dans une descente, je regonflais et je roulais pendant 30-40 km, mais bon au bout d'un moment il fallait quand même que je répare.
Ouais.
Mais du coup j'étais pour réparer, c'était la galère parce que si je remettais une chambre à air neuve, bah j'en recreve à nouveau. Du coup il fallait que je trouve un point d'eau, que je mette la chambre à air dans l'eau, que je trouve où était le trou, que après j'essaye de voir s'il restait un truc dans le pneu. Et souvent en fait c'était des épines qui ressortaient ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Du coup je me suis carrément une fois retrouvé à percer le pneu avec une pince à épiler pour sortir une épine parce que je savais pas si elle était là ou s'il y avait pas d'épine, comme c'est deux fois que je crois au même endroit, donc c'était vraiment la galère quoi.
Donc du coup maintenant tu vas quand même enfin passer en tubeless.
Ouais, tu me laisses, et je pense qu'après pour la Atlas Mountain Race, le gravel, on va dire le gravel route, genre les vélos qui sont type route gravel, c'est pas du tout le bon choix parce que c'est les pneus en 42, c'est trop fin pour les parties techniques.
Tu m'étonnes.
Après là, le gros avantage que j'ai eu, on a pas mal parlé avant la course parce que du coup j'étais en stress, j'allais voir tous les Français, je me disais ouais je le sens pas être là, et ils me disaient non t'inquiète. Et après moi ce qu'on m'a dit aussi, ce que j'ai trouvé vrai, c'est que moi je viens du VTT de descente et du coup le vélo j'arrive à très bien passer dans les descentes, à être assez fluide pour préserver le vélo. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à la finir. C'est parce que j'ai vraiment de la technique sur le vélo qui m'a permis de pas trop casser le vélo, on va dire, dans la technique. Mais sinon, ouais, je pense que vaut mieux avoir un VTT ou un gros gravel sur lequel tu peux mettre au moins des pneus en 2-10, quoi. 2-10 devant.
Et ça, c'est, tu finis combien déjà au général à l'Atlas?
15e, je crois.
Ouais.
15e ou 17e, je sais plus.
Je sais pas. Je me souviens plus. Ça s'est passé comment alors?
On a pas encore le classement, je crois. Ça s'est bien passé. Le stress, c'était pas les montagnes qui me faisaient peur. Parce que du coup, maintenant, je sais que les montagnes, je les passe bien. Que par rapport, on va dire, au gros du peloton. Donc maintenant, je m'inquiète plus du tout pour le D+. Plus même, d'ailleurs, quand j'ai préparé la course, je me disais, c'est pas mal, il y a beaucoup de montagnes, ça va m'avantager. Ce qui me faisait peur, moi, c'était surtout les ravitaillements qui étaient assez espacés.
Ouais.
La grosse plage de température. Parce que du coup, la journée, on pouvait avoir 30-35 degrés et la nuit, on avait 0 degrés. Et surtout la nuit. Moi, ce qui me faisait plus peur, c'était la nuit. Parce que les nuits duraient 12 heures là-bas. Donc c'est pas comme une transcontinentale où il fait beau jour pendant 16 ou 18 heures et il fait nuit que pendant 6 heures.
Ouais.
Du coup sur là faut gérer l'énergie des lampes parce que tu peux pas mettre toutes tes lampes à fond pendant 12 heures sinon ça tient pas. Donc c'était assez compliqué à gérer, et surtout que le moyen d'un mot que j'avais produisait moins d'électricité vu qu'on c'est gravel, donc tu roules beaucoup moins vite, surtout en montée, où t'as du mal à produire assez d'énergie pour alimenter une lumière suffisante pour voir où tu vas. Sinon après ça c'est plutôt à part les crevaisons, ça s'est super bien passé. Les nuits en fait là, ce qu'il faut prendre en compte pour les futurs participants, c'est que un 0 degré en France c'est pas un 0 degré au Maroc parce qu'il y a pas d'humidité, surtout quand on habite en Normandie ou dans le nord de la France qui sont des régions très humides. Là-bas quand il faisait 0 degré, j'avais vraiment pas l'impression qu'il faisait 0 degré quoi. J'avais pris par exemple, j'avais des gants d'été. Et dans ma sacoche arrière, j'avais des gants, des gros gants pour justement des températures hivernales. Et j'ai jamais sorti mes gros gants. Je suis toujours resté avec mes gants d'été. S'il faut prendre du matos pour le froid, faut se méfier. Voilà, le zéro degré ne veut pas dire zéro degré quoi, en français. Et pour le ravitaillement, au final, on trouve il y a pas mal de petits boui-boui où tu trouves à manger et à boire sur la route. Après, moi, j'avais la chance de toujours être dans les premiers, dans les 30 premiers dans la course. Du coup, il y avait peu de monde qui était passé. Du coup, on trouvait tout ce qu'il fallait dans les commerces. Après, je pense que pour les derniers, c'était plus compliqué parce que les prix ils augmentaient. Parce qu'ils comprenaient rapidement les logos que de toute façon ils n'avaient pas trop le choix, donc que si t'avais besoin d'eau, t'avais besoin d'eau, si t'avais besoin de manger, t'avais besoin de manger, et qu'ils pouvaient faire x2, x3 sur les prix, de toute façon t'allais payer quoi. Donc
c'est de bonne guerre.
Ouais, et faut juste faire gaffe sur la nuit, quand arrive la nuit, parce que c'est comme si sur route, la nuit on trouve plus rien. Je sais que moi il y a une étape où je suis arrivé dans le village, il y avait rien qui était ouvert et je devais repartir pour 100 km sans rien, j'avais pratiquement plus d'eau. Et en gros, si j'avais pas trouvé une boutique qui avait rouvert genre à 23h dans le village, j'aurais pas pu repartir sur les 100 km d'après. Ouais. Donc faut quand même, c'est stratégique. Des fois faut mieux rouler beaucoup plus fort sur une petite période pour arriver assez tôt dans un village pour pouvoir récupérer à manger à boire. Donc il y a une stratégie à avoir quand même au niveau du ravitaillement.
Comment t'as changé justement en parlant de stratégie, comment tu as changé ta stratégie de chargement entre le voyage et le bikepacking, considérant ton expérience de la TCR?
Entre mon tour du monde et la TCR, ouais. Et l'Atlas Mountain Race.
Ouais.
Donc, c'est vrai que pendant le tour du monde, j'avais quand même beaucoup plus de matos électronique, j'avais mon réflexe, j'avais mon ordinateur portable, j'avais pas mal de matos que je pouvais pas recharger en USB. Du coup, ce que je faisais, c'est que dans la journée, des fois, je trouvais un restaurant ou je trouvais un office de tourisme ou je trouvais des prises des fois de marché pour recharger mon équipement électrique. Et j'avais des grosses batteries USB, donc tout le GPS et tout ça tenait. Et en plus, j'avais déjà le moyeu dynamo pendant mon tour du monde. Donc tout ce qui était GPS et téléphone, j'arrivais à recharger avec le moyeu dynamo. Mmh. Après le moyeu dynamo, forcément, je l'ai gardé quand j'ai commencé à faire du bikepacking. Sur la transcontinentale, vu qu'on fait beaucoup de routes, ça charge assez facilement. Du coup, la nuit, on recharge, on switch pour mettre tout sur les lumières, et la journée, on charge les batteries pour pouvoir alimenter le GPS. C'est largement suffisant. Par contre, ouais, sur l'Atlas Mountain Race, le problème, c'est que en journée, moi, la veille du départ, je teste mon chargeur USB, il marche. Et le matin du départ, pas moyen de faire fonctionner mon régulateur de tension. C'est le boîtier USB, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui permet, en fait, il faut que ça soit linéaire, en fait, il faut que ça soit du 5 volts avec la même intensité. Je sais plus qu'on appelle ça, c'est du alternatif, c'est ça?
Là, je ne me risquerai pas à répondre.
Ouais, bah en gros, faut avoir un boîtier électronique qui permet de réguler la tension pour avoir tout le temps 5 volts. Et en fait, ce boîtier électronique qui permet de recharger les batteries marchait plus. Et en fait, du coup, bah, j'ai fait toute la course sans pouvoir recharger mes batteries. Du coup, en fait, mes batteries, j'ai survécu. En gros, j'ai pratiquement jamais utilisé mon téléphone portable j'ai gardé toutes mes batteries pour mes GPS.
Ouais.
Parce que j'avais peur de me retrouver en rade, surtout que là-bas, la transcontinentale, t'as plus de GPS, tu peux quand même suivre. Moi, j'avais ma trace sur Google, donc tu peux quand même suivre sur Google. Et réussir à te débrouiller là en gravel sans GPS, t'es foutu. Je sais qu'il y avait un mec, il a éclaté son GPS et il était bien dans la misère après sur Atlas Mountain Race. Du coup, j'ai utilisé au minimum mon téléphone, il était en permanence en mode avion et je l'utilisais un peu pour la musique, mais c'est tout. Et pour prendre des photos. Mais sinon, je l'utilisais pas. En plus, la différence, c'est que la transcontinentale, on utilise beaucoup le téléphone. Parce que vu que quand on est sur route, moi j'avais le téléphone qui était posé sur le prolongateur, du coup je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à discuter, à faire des vidéos et tout ça sur le vélo pour passer le temps quand c'est plat. Alors ça se vide beaucoup, alors que quand t'es en Maroc, j'avais pas de réseau téléphonique en dehors des villages. Et en plus, vu que t'es en gravel, t'es tout le temps concentré sur ta trace. Du coup, bah t'as pas le temps de regarder le téléphone, mais en fait, bah du coup, tu l'utilises pas du tout.
Mais ma question, c'était par rapport, bon bah là t'as répondu avec les équipements électroniques, mais sur le voyage, t'as emmené tout un tas de barda, des grosses sacoches, je suppose. Là, comment tu as allégé au maximum
et
et très éventuellement, qu'est-ce que t'as emmené de trop que finalement t'aurais jamais dû emmener, comme par exemple tes gants épais.
Ouais, là tu parles de l'Atlas Mountain Race ou du.
Ouais, de l'Atlas. Sur l'Atlas.
Ouais, bah, je vais le résumer en deux temps. En gros, comment je suis passé de mon matos tour du monde à mon matos backpacking et comment je pourrais encore réduire mon matos backpacking. En fait, quand j'ai fait le tour du monde, je suis parti avec plein de trucs qui servaient à rien, comme un filtre à eau. Je suis parti avec un réchaud à essence, avec une tente 3 saisons, en gros avec du matos qui prend beaucoup de volume et que tu te sers pas beaucoup. Et en fait, tout le matos tu peux le réduire. Par exemple, t'es beaucoup mieux à prendre une tente super light, par exemple de chez la camp, elle sort 1 kg et en fait t'as une partie qui est que en toile et tu sais en toile moustiquaire. Du coup, en fait, pour la vie du sud-est, c'est parfait parce que tu montes juste la moustiquaire, comme ça t'es protégé et tu peux dormir partout. Mmh. Alors que la tente 3 saisons on va dormir dedans en Asie du Sud-Est, c'est impossible. Le filtre à eau, même chose, pour le peu que tu l'utilises, t'es beaucoup mieux à prendre des pastilles filtrantes, ça prend beaucoup moins de place. Le réchaud, au lieu de prendre un réchaud au pétrole, tu prends un réchaud alcool bois, tu passes d'un réchaud qui fait 600 grammes ou 800 grammes à un réchaud qui fait 32 grammes et qui prend aucune place vu qu'il est plié. Et en fait, tout ça, j'ai sur tout mon matos, en fait, aujourd'hui, je l'ai allégé. Et en fait, avant, où j'avais besoin de peut-être 20 kilos de matériel ou 25 kilos de matériel, je suis passé à moins de 10 kilos. Si je repartais à faire un tour du monde dans le même niveau de confort, je serais à 10 kilos. Mmh. Alors que voilà, il y a 4 ans, j'étais à 25 kilos, sans me priver sur le confort. Et après, en course, en fait, je pars toujours trop chargé parce que je suis toujours dans l'optique de finir la course. Et du coup, j'arrive jamais à me dire ça passe ou ça casse. Et en fait, je pense qu'à partir d'un moment, quand tu veux faire un classement, faut accepter de prendre des risques.
Ouais.
Et par exemple, à l'Atlas Mountain Race, la moitié de mon équipement, je l'ai pas utilisé. Ça veut dire que par exemple, j'avais pris un derrière de rechange parce que j'avais peur de casser mon derrière vu qu'il y avait des gars qui avaient cassé leur derrière quand ils avaient fait la reconnaissance. J'avais un pneu de rechange que j'ai pas utilisé. Du coup, j'avais vu que je suis parti en chambre à air et que tout le monde est stressé. J'étais parti avec au moins 5 chambres à air de rechange, avec au moins une centaine de racines. Du coup, voilà, j'avais pas mal de matos de réparation. Le matos pour le froid, vu que les doudounes étaient obligatoires, j'avais pris une doudoune que j'ai jamais utilisée. Le duvet, en fait, j'ai dormi qu'une fois dehors pendant 4 heures. Et je pense que si j'avais pas eu de duvet et pas eu de matelas, j'aurais pas dormi. De toute façon, j'aurais gagné du temps. Du coup, je pense que j'aurais, vu qu'à chaque fois j'ai trouvé un abri pour dormir, j'aurais pu partir sans duvet, sans matelas, juste avec la doudoune au cas où, voilà, j'ai besoin de m'arrêter quelque part, je mets la doudoune pour pas avoir froid. Mais voilà, c'est, en fait, c'est aussi, Quand t'es dans l'Atlas, si tu casses ton vélo en plein milieu d'une partie où il y a 100 km sans rien, en pleine nuit, il peut faire 0 degré. Donc attendre pendant 8 heures pour 0 degré, je pense que si t'as pas ce matos-là, ça peut être dangereux.
Oui.
Mais après, tu regrettes de l'avoir pris parce que tu perds du, ça t'a fait perdre du temps. Mais en même temps, tu te dis c'est du matériel de sécurité. Et justement, tu vois, sur le règlement de l'Atlas Mountain Race, t'étais obligé d'avoir tel matériel. Et moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris ce matériel-là. Et je trouve que c'est dommage de dire on est obligé à prendre de tel matériel et que derrière, on contrôle pas forcément que les gens aient pris ce matériel-là.
Oui.
Parce que du coup, c'est... Tu vois, l'année prochaine, je pense que clairement, si je repars, je prends un duvet beaucoup plus light. Et je sais que la doudoune, je vais pas utiliser. J'ai utilisé que ma veste de pluie, qui me faisait des vestes de pluie et doudoune pour le froid. Et je pense que je partirai juste avec ça, quoi.
À combien tu estimes le, on va dire, la perte de temps, la perte de temps en emmenant trop de matériel?
Je pense qu'il se fait surtout en montée, vu que tu perds. Après, c'est dur à estimer. Je pense que c'est dur à estimer. Mais tu vois, entre quand je suis chargé, quand je vais faire une sortie d'entraînement où j'ai le même équipement qu'une TCR et quand j'ai pas d'équipement, je suis à 2-3 km heure de différence quand même. Et je pense qu'avec la fatigue, ça doit jouer encore plus. Mais là, on parle de, voilà, je devais être à 20 kilos, vélo plus chargement. Je devais être une vingtaine de kilos et à la transcontinentale j'étais à 16 kilos. Là, moi, quand j'ai préparé mon matériel pour la prochaine transcontinentale, j'étais vélo plus matériel, j'étais à 14 kilos. Du coup, je suis quand même light hein, parce que j'étais à 8 kilos de matériel tout confondu. J'étais moins de 8 kilos. J'étais, je crois que je te dis, non, le vélo est à 10 kilos. Parce que le vélo, à vide, il doit être à 8 kilos. Avec les prolongateurs, le moyen dynamo, il doit être à 10 kilos. Et du coup, je crois que pour la dernière transcontinentale, j'étais à 6 kilos de matériel en tout, en comptant le téléphone, vraiment en comptant tout. Et là, j'arrivais à descendre à 4 kilos de matériel.
Tout à l'heure, tu disais, pour faire un classement, il faut prendre des risques. Donc, Sofiane, on sait qu'il est parti ultra light. Est-ce que maintenant, tu te sens capable de prendre plus de risques?
Ouais,
parce que tu sais que tu passes la montagne, tu sais que tu passes tout simplement et que tu vas au bout. Donc maintenant, est-ce qu'il faudrait peut-être pas lâcher quelques trucs et tenter le tout pour le tout?
Ouais, clairement la
transcontinentale. Tu y penses ou pas?
Ouais, clairement là cette année, moi la transcontinentale, je repartais pour vraiment faire classement et du coup, je partais pas dans les mêmes conditions que l'année dernière. Et justement, en fait, l'année dernière, je me rappelle qu'à la transcontinentale, quand ils m'ont vu arriver, les gars, ils ont fait pour un gars qui avait fini dans le club B, c'était très chargé quoi. Mais parce que voilà, j'étais pas dans l'optique de finir dans le top 10 à la dernière transcontinentale. C'est vrai que voilà, du coup maintenant j'ai de l'expérience, du coup je prendrai plus de risques, mais voilà, c'est en gros faut accepter de devoir abandonner parce que t'as pas de quoi réparer ou de perdre énormément de temps parce que t'as pas de quoi réparer. Je me rappelle de quand j'étais en Italie, je croise un gars qui était en, je sais plus qui c'était, je crois que c'est un anglais. Il avait éclaté son pneu dans la montée des Dolomites et du coup il avait pas de pneu de rechange, il avait pas même pas un petit insert pour mettre dans le pneu pour essayer de le rigidifier et du coup il était je pense qu'il était pas très lucide parce qu'il était en train de chercher, devait être 22h et il était en train de chercher un magasin de vélo ouvert à 22h dans une station de ski. Je me suis dit je me suis demandé pourquoi il cherchait quoi. Oui. Du coup, bon, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'avait pas trouvé, mais non, il était dans son truc, il a continué à chercher. Et le lendemain, il a quand même trouvé un magasin de vélo. On a dormi ensemble à l'hôtel. Et le lendemain, il a trouvé un magasin de vélo dans la vallée à Bolzano ou à Merano, je sais plus. Et du coup, il a réussi à changer son pneu. Mais voilà, c'est en gros, c'est est-ce que je prends le risque de pas prendre de rechange? Et c'est vrai que quand on s'entraîne 12 à 20 heures par semaine, voire même beaucoup plus, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de perdre tant d'énergie juste sur un caillou quoi. Je me rappelle Stéphane là qui quand il était en, c'était où, c'était en dans l'Europe de l'Est, il avait passé sur un truc métallique, un morceau de camion métallique, en fait, qu'il n'avait pas vu en pleine nuit. Il a crevé les deux chambres à air. Et du coup, il avait été en galère parce qu'il avait, il avait plus de chambre à air. Donc, ouais, c'est à des moments, en gros, la course, ça peut s'arrêter, mais pour une toute petite connerie, quoi. Mmh. Et après, faut l'accepter, quoi. Mais on peut pas, je pense que tu peux pas faire de jeu de classement si t'acceptes pas ce risque.
Bah, disons que maintenant, tu les as finis, ouais, voilà, tu sais que tu peux les finir.
Maintenant, je sais que je peux les finir. Donc, après.
Tu peux te permettre d'en gâcher une, quasiment.
Voilà, et je me dis maintenant, même au niveau des délais, je peux me permettre de perdre, on va dire, une journée et quand même de finir dans les délais, quoi. Même si, voilà, tu dois prendre le taxi pour aller pour faire 100 bornes, pour aller réparer ton vélo, revenir en arrière pendant 100 bornes, je pense que c'est quand même jouable de finir dans les délais. Mais par exemple, tu vois, Stéphane, il a fini toutes ses transcontinentales. Et c'est quand même ouf parce qu'il part quand même assez light. Et à chaque fois, même quand il a eu des merdes, il a toujours réussi à finir. Et on voit souvent que les vétérans, même quand ils sont plus en coup, ils essayent souvent de finir la transcontinentale. Pour eux, c'est très important de finir la transcontinentale. Alors qu'il y a beaucoup de novices qui viennent jouer le classement dès la première année. Et en fait, ils se crashent. Et en fait, je pense qu'ils pourraient finir, mais ça les intéresse pas de finir.
C'est un petit peu dommage, non?
Ouais, bah moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Tu vois, quand on regarde la transcontinentale, après, moi, j'ai peut-être une vision trompeuse, hein, parce que je suivais ça, mais à la fois, j'étais dans la course. Mais quand je voyais tous les gars qui étaient devant moi et qui abandonnaient, qui n'étaient pas des grands noms connus, je me disais, c'est hallucinant le nombre de mecs qui partent super vite. Parce qu'au début, en gros, la première moitié de course, moi, j'étais dans les 30 premiers, j'étais aux alentours de la 30e place. Et en fait, il y a la moitié des places que j'ai récupérées. C'est pas parce que je me suis mis en roulé plus fort ou j'ai dépassé du monde. C'est juste qu'il y avait plein de monde qui abandonnait devant moi, quoi.
Bah oui, ça, on en a parlé plein de fois dans plein d'épisodes, mais on sait bien que sur les épreuves, les mecs partent beaucoup trop vite et se crament la tronche.
Et je pense que la prochaine transcontinentale, ça risque d'être très dangereux parce que on part de Brest. Donc pour ceux qui n'ont pas trop vu le parcours, on part de Brest. Normalement, du coup, la transcontinentale n'a pas lieu cette année, mais a lieu l'année prochaine. Mm-hmm. Ça devrait être le même parcours. Donc on va partir de Brest, on va aller à Lille, et de Lille, on va descendre en Allemagne. Et en fait, après, on va aller en Autriche où là, il y aura les premières montagnes. Mais en fait, entre Brest et Lille, c'est quand même relativement plat. Lille, pour aller jusque, pour traverser toute l'Allemagne, c'est si tu te débrouilles bien, c'est tout plat.
Ouais.
Parce que tu suis un peu le Danube et tout ça, donc une partie de la route que j'avais fait quand j'étais parti faire le tour du monde. En plus, avec le sillon choc le vent dans le dos, là, c'est royal. Donc je pense que ça roulait très très fort au démarrage. Et en fait, la fin, c'est pas de la haute montagne, mais c'est que de la moyenne montagne, en fait, où t'as pas trop de vallées. Et du coup, tu fais que monter à 500 mètres, redescendre, remonter à 800 mètres, redescendre. Et je pense que la fin va être assez compliquée. Et qu'il y en aura beaucoup qui ont mis énormément de puissance sur les premiers jours de course et qui vont arriver dans les Balkans, ils vont être éclatés. Et ça risque de, les classements risquent de pas mal changer, je pense, dans les Balkans. Mmh.
Ça va, là, de ce que tu m'expliques, ça va peut-être aussi largement influer le choix du vélo. Parce que s'il y a une longue portion plane avec vent arrière, ça incite quand même à faire péter les roues aéro, les machins. Mais après, les roues aéro, les 80 mm quand il faut se les taper dans les côtes, c'est beaucoup moins drôle.
Après, je pense que personne n'ira partir quand même avec des roues 80 mm, surtout en gravel. Mais je pense que du 35-45 mm, ça vaudra le coup sur les parties plates. En plus, moi, j'habite à Rouen, donc tu sais, Brest-Lille, je connais un peu les routes parce que du coup, je suis déjà allé vers la Bretagne, je suis déjà allé vers Lille. Donc, des deux côtés, je sais à peu près où je vais passer, donc je connais déjà une partie du parcours. Et c'est vrai que oui, ça va, à mon avis, ça va rouler assez vite. Et je pense que après, j'ai pas du tout regardé les parties gravel, je sais même pas quel CP en gravel ou pas, mais après le risque de si tu pars par exemple, moi il y a un vélo qui me fait un peu rêver, c'est le Trek Madone là, l'aéro chez Trek.
Ouais.
Mais après faut l'accepter quand t'es en gravel.
Bah, disons que je suis pas convaincu que ce soit l'idéal pour les parties gravel, hein, un
voilà,
Madden.
C'est ça, c'est tu vois le
pas entièrement certain.
Quand on était avec Stéphane à la Transcontinental, on avait deux vélos qui étaient complètement différents. Moi, j'avais un gravel monté avec des pneus route en 28 et des 4 saisons en 28 et Sofiane, il roule sur un Specialized
il a un Venge, ouais.
Il a un spécial agence, donc c'est deux vélos qui sont complètement différents. Et pourtant, on était tout le temps à peu près, on se croisait tous les jours et on arrivait à rouler à peu près au même niveau. Et il y a juste un moment où on était en montagne et il était pas loin devant moi. Et en gros, j'étais peut-être 100 mètres derrière et j'essayais de maintenir son rythme. Donc, il est sur son rythme et j'arrivais pas à suivre. Et je pense que ouais, ça se sent sur les parties plates où quand t'es dans des faux plats descendants où tu sens donc la différence est haut. Mais après, je pense qu'en montagne, faut quand même, ou dans les parties gravel, tu passes beaucoup plus facilement quand même avec un vélo comme le Rose, quoi.
Ben, il faudra, je suppose, pour cette TCR à venir, voir la proportion de moyenne montagne et choisir le vélo qui te permettra de mieux répondre à cette partie dominante.
Ouais.
S'il n'y a pas beaucoup de gravel, bon, bah, ouais, tu ralentis et éventuellement, tu perds un peu de temps. Mais si c'est pour gagner un max de temps sur les parties roulantes, en avant, yes. Quoi. En avant Guingamp.
Ouais.
Voilà. Tu sais quoi, mon petit Théo, je vais devoir te laisser parce que, bah, comme tu le sais, j'ai des obligations familiales.
Ouais.
Et ça fait 1h30 et j'avais dit à maman 1h15. Donc, moi, je vais aller garder Harry. Et puis voilà, je vais t'abandonner pour la minute de solitude. T'es à l'aise avec ça,
ouais.
C'est bon ?
Non, je suis pas.
Tu sais pas ce que c'est ou t'aimes pas parler tout seul ?
Non, je sais pas. Vas-y, répète-moi ce que c'est parce que.
Bah, je vais juste débrancher mon micro et te laisser dire ce que tu veux pendant une minute. Donc là,
ouais,
tu vas parler.
Tu me prends de court, je m'étais pas préparé.
Si je sors ce petit coup de Trafalgar à la fin, c'est justement pour vous prendre au dépourvu. Hein. N'imagine
yes.
pas que voilà. Donc je vais te laisser. Tu racontes ce que tu veux dans la foulée. Moi, je couperai l'enregistrement. Tu raccroches à la fin et puis voilà. En attendant, okay. Merci.
Ok.
Merci, bon, ben, merci. C'était ouais, tu racontes. Et tu sais quoi, Stéphane.
J'ai raconté mon histoire de la banque, je pense. Parce que
ouais.
Je pense que t'en as pas entendu parler. Merci, toi, t'as dû en entendre parler, mais.
Alors, non, ça me dit rien, mais tu vas la raconter.
Non, ouais,
Stéphane
non,
avait mimé les bruits de sa chaîne sur la MR, donc,
ouais,
donc,
okay.
Toi, je te laisse raconter. Tu prends le temps que tu veux, juste à la fin, tu raccroches. C'est tout. Ok?
Ouais, okay.
Super. Merci.
Ça roule.
À très bientôt. Bise. Salut.
Yes. Salut. Bon, bah du coup, je vais vous raconter les deux anecdotes de la transcontinentale. La première, c'était celle avec Stéphane. Allez, en gros, c'était la descente de l'Alpe d'Huez. Et je descends à l'Alpe d'Huez et j'arrive au CP4. Du coup, je dors au CP4, sauf que mon tracker, en fait, il est resté positionné. Le point GPS, en fait, il est resté positionné dans la descente de l'Alpe d'Huez. Et du coup, Stéphane, il pensait que j'étais encore dans l'Alpe d'Huez. Du coup, il s'est dit, merde, pourquoi il est resté dans la descente de l'Alpe d'Huez alors que le CP4, il est juste après. Du coup, il était un peu en stress. Et du coup, il a roulé un peu plus fort pour essayer de me rejoindre. Et en fait, quand il arrive sur mon tracker, genre l'endroit où était positionné théoriquement mon tracker, et ben, c'est des toilettes publiques qui étaient dans la descente de l'Alpe d'Huez. Et en fait, il m'a cherché, il a ouvert les toilettes, il m'a cherché partout dans les toilettes, parce qu'il pensait que j'étais là, il s'était dit merde, ça se trouve il est blessé ou quoi, c'est bizarre que son tracker soit en plein milieu de la descente. Et il m'a cherché dans les toilettes, alors qu'en fait, moi, j'étais tranquillement dans l'hôtel du CP4 à Bourg-d'Oisans, et en fait, bah, du coup, il était surpris de me voir quand il arrivait à l'hôtel et qu'il a vu que j'étais à l'hôtel, il était surpris de me voir. Il m'a raconté ça après, du coup, c'est assez drôle. Et l'autre anecdote de la transcontinentale que j'ai eue, donc j'ai été élu meilleure histoire de la transcontinentale pour ça, c'était la dernière nuit en fait, je pensais que personne n'allait s'arrêter de dormir et on se battait donc pour le top 10 et je vois que tous les concurrents autour de moi ils sont partis dormir, je vois que leurs trackers ils sont en transparent donc ça veut dire qu'ils sont arrêtés. Du coup, je me dis, bon, bah, moi, j'étais pas du tout lucide. Je roulais n'importe comment sur la route. Je me réveillais en sursaut. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller dormir dans la banque. Je vais aller dormir. Et là, je trouve un petit village avec une banque. Du coup, je me dis, bon, bah, nickel, je vais dormir dans la banque 1 ou 2 heures. Je dors 45 minutes. Et là, je décide de repartir. Et en fait, je sors de la banque pour voir la température. Et au moment où je ressors de la banque, je vois que j'ai une sensation de froid et je rentrer dans la banque pour récupérer mon vélo. Et en fait, la porte de la banque s'est verrouillée. Du coup, j'étais en cuissard, juste avec mon téléphone, pieds nus, à l'extérieur de la banque. Du coup, j'avais froid et tout mon matos était coincé dans la banque. Et je pouvais pas ouvrir la porte. Je pensais qu'il fallait une carte bancaire pour ouvrir la porte. Du coup, je commence à appeler la police. La police m'envoie chier. Du coup, j'essaie de sonner chez des gens, il y a personne qui me répond. Je vois une nana qui passe au bout de la route. Du coup, je lui cours après. Elle a peur, elle se bat en courant. Je la rattrape. Je lui explique mon problème. Du coup, elle vient avec sa carte bancaire, avec son copain, avec sa carte bancaire pour essayer d'ouvrir la porte de la banque. La porte, elle s'ouvre pas. Du coup, je rappelle la police. La police me dit, on va vous envoyer une patrouille. Ils me disent, mais de toute façon, nous, on n'a pas les codes d'accès à la banque. On peut pas ouvrir la porte. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas perdre mon top 10 sur ça. Et en fait, du coup, j'ai forcé les portes coulissantes. Et du coup, j'ai réussi à mettre mes doigts au milieu de la porte et j'ai forcé la porte de la banque. Et j'ai réussi à rentrer dans la banque. J'ai récupéré mon vélo. Je me suis rhabillé vite fait. Et du coup, je suis reparti. Et ça m'a tellement mis de pression. J'ai dû perdre une demi-heure dans l'histoire. Mais j'ai tellement été sous pression, en fait, et sous stress de perdre ma TCR sur ça, que pendant 3-4 heures après, j'ai roulé super fort sans avoir envie de dormir. Et du coup, je mets 100 km pratiquement 100 km à tous mes concurrents directs pour le top 10. Et c'est comme ça que je suis mis 9e de la transcontinentale. Et du coup, voilà, donc faites gaffe quand vous dormez dans les banques, à minuit, en général, les portes se verrouillent. Bon, voilà, c'était cool. Merci à toi, Richard, pour cette interview. Et à plus, normalement, sur la course en Belgique. Salut! C'était quoi le nom de la course en Belgique, déjà? Ah, je sais même plus. Bon, bah, c'est pas grave. Salut!